Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti! C'est un peu un passage obligé. Cette semaine, on va parler de genre, de classe et de race dans la série Game of Thrones. Avec le recul critique nécessaire pour analyser ce phénomène d'entertainment et de mass culture. Alors la série la plus piratée au monde est diffusée sur HBO depuis 2011, nul ne l'ignore. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière que l'on regarde encore chaque semaine sans la binger tout d'un coup. Ces jours-ci, elle trouve son apothéose dans cette huitième et dernière saison qui donne lieu à des récaps savoureux et à des élucubrations qui font le bonheur des réseaux sociaux. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel. Alors, rassurez-vous, on ne va pas trop vous spoiler. Et on est avec Anne-Laure de la maison Pinault. Salut.
Salut.
Qui va nous dire de quoi il s'agit en quelques mots.
C'est un peu difficile d'être concis, mais je vais faire l'effort de l'être. Game of Thrones, littéralement, c'est le jeu des trônes. Donc, l'idée, c'est qui va s'asseoir sur le trône de fer, donc ce fameux amas déperrouillé. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que c'est plusieurs familles, donc les Lannister et les Stark, c'est 7 royaumes dans un seul territoire, donc Westeros. Et le deal de la série, c'est ça, c'est qui va s'asseoir sur le trône de fer. Donc on a énormément de choses dans cette série, donc 8 saisons, on a dit c'est dur d'être concis dans l'explication, mais on a énormément de choses, on a des querelles fratricides, de la sorcellerie un peu au rabais. The night is dark and full of terror, old man. But the fire burns them all away. On a des dragons en slow motion. Des morts atroces. Idiots, help your king! Des mariages forcés. Good. Take off your clothes. Donc cette adaptation de la saga de George R. R. Martin est hyper dense. Mais au niveau du style, on a un petit mélange entre Shakespeare et Tolkien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les engueulades de famille à Noël, on a le Brexit, le contre-terrorisme. On peut même trouver des liens avec le mur d'Adrien, donc ce mur qui séparait l'Écosse de l'Angleterre, là qu'on trouve un peu sous la forme d'un énorme mur de glace. Et on a même un petit placement de produit Starbucks, ça fait un peu couler de l'encre.
Starbucks, évidemment, en a profité pour se faire un coup de pub et publier lui aussi son communiqué. Pour être honnête, nous sommes surpris qu'elle n'ait pas commandé un Dragon oui. Drink.
Tout fout le camp.
Tout fout le camp. Donc bref, il y en a pour tous les goûts et c'est peut-être ça la recette du succès. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le deal de la série, c'est qui monte sur le trône de fer. Mais en fait, le fond du problème, c'est l'apocalypse. C'est ça la vraie épée de Damoclès. Donc ça fait un peu penser à l'actualité politique aujourd'hui. Qui va monter sur le trône de fer? En vérité, on s'en fout parce qu'on va tous mourir. Donc toi, Clémentine, c'est quoi ton rapport à la série?
Alors moi, je regarde depuis le début, mais sans avoir lu les livres. Et c'est un peu la série que j'adore détester, puisque je l'ai un peu regardée à mon corps défendant. Et c'est vrai que grâce à Game of Thrones, je me suis intéressée à un genre qui m'est assez étranger et qui me rebute plutôt a priori, donc l'héroïque fantasy médiévale. Et je pense que j'y ai surtout eu accès par l'entremise des personnages féminins, comme la science-fiction à l'époque d'Alien. Et donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle que ça peut jouer dans l'identification. Mais bon, c'est vrai que là, le suspense est à son comble, puisque ça fait quand même 6 saisons que le personnage de Daenerys essaie d'accéder au trône un peu au ralenti. Et voilà, et on a envie d'être délivré. Voilà. Et toi, est-ce que tu regardes depuis le début?
Ouais, délivrer Daenerys, c'est clair. Ouais, je regarde pas vraiment depuis le début. J'ai commencé 3 ans un peu en retard. Je boycottais, à vrai dire, un peu comme toi, parce que je trouve que l'heroic fantasy, c'est pas mon deal du tout.
Tu boycottais a priori?
Ouais, a priori. J'avais pas lu les livres. Et un jour, une pote m'a dit, en fait, il faut voir ça plutôt comme House of Cards version Moyen-Âge. Ça m'a un peu marqué. Mais tout de suite, j'ai été hyper choquée. Ça me rappelait un peu le fail de la série Rome sur HBO. Je ne sais pas si tu avais vu cette série. Ça racontait la succession de Jules César. Et c'était à fond le male gaze, les femmes à poil. C'était assez choquant, en fait.
Donc le male gaze, le regard masculin qui objectifie.
Tout à fait. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai réussi à passer outre cette espèce d'écœurement. J'étais conquise parce que j'arrive à y trouver enfin des liens avec l'histoire. C'est un peu proto-historique, quoi. À la place d'Henri VIII, c'est Ramsay Bolton, donc ce personnage dont on se souvient si on a vu la série, qui est un peu traumatisant. À la place de Marie Tudor, c'est Sansa. À la place de Jeanne d'Arc, c'est Brienne.
Donc c'est facile. Et on sait que tu aimes Jeanne d'Arc.
Ah, on sait que j'adore Jeanne d'Arc. Donc c'est vrai que c'est facile de se projeter dans plein de choses. Et puis voilà, j'ai un peu l'impression que cette série, elle arrive à une époque où au tout début, c'était OK de dépeindre le viol comme un peu un contrat social, les mariages forcés de la même façon. Et finalement, au fil du temps, et des progrès sociétaux et des faits comme MeToo, elle s'est déconstruite un petit peu. Donc cette évolution, on la voit vachement avec l'utilisation massive du gif Shame. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, le personnage de Cersei est frappé par la foule frappé de honte. Donc la foule entière crie Shame sur son passage.
Shame! Shame! Shame!
Donc cette scène a été reprise dans un gif qui est vachement utilisé, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et de même, l'expression « Winter is coming » aussi est entrée dans le langage. Donc ça veut vraiment dire que la série est arrivée à un moment particulier où tout le monde a pu se la réapproprier.
Et alors, pour parler un peu de cette 8e saison qui ne contient que 6 épisodes, elle s'achemine lentement mais sûrement vers sa conclusion. Et donc on a droit à des épisodes très longs, notamment réalisés par Miguel Sapochnik, qui avait réalisé le film Repoman, qui sont clairement du fan service, donc c'est-à-dire réalisés pour faire plaisir aux fans. Moi, je retiendrai notamment le troisième, qui est tourné dans les décombres de Winterfell. C'est presque un film, en fait, celui d'un monde en ruine, entièrement plongé dans la pénombre et qui se termine dans un grand incendie. Je trouve que c'est très beau. Il y a même un petit court-métrage de zombies au milieu. Et alors, pour revenir à la série, d'après toi, pourquoi ça marche ?
Pourquoi ça marche ? Je pense que c'est parce que, tout simplement, Game of Thrones est politique. Dans le livre génial « La géopolitique des séries » du géopolitologue très sérieux Dominique Moisy, on apprend que Game of Thrones marche de ouf et partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il raconte le triomphe du chaos et que les gens sont fascinés par ce chaos-là, en fait. Et il brode des motifs directement inspirés de l'histoire et des grandes puissances impériales. Et en plus, est rajouté voilà, des élucubrations dragonesques. Mais en vrai, dans les marcheurs blancs, on peut voir Daesh. Dans la guerre de deux nuits, on peut voir les Kurdes.
Ah oui, carrément.
Voilà, donc il explique un peu pourquoi, en regardant Game of Thrones, on regarde le monde dans lequel on vit. Il dit aussi, et ça vraiment, je trouve ça absolument passionnant, qu'on est comme des lapins pris dans les phares avec cette expression « winter is coming », alors qu'en vérité, dans notre monde, l'hiver est arrivé déjà. C'est le 11 septembre, c'est le 13 novembre, c'est le bouleversement climatique. Donc je pense que ça explique un peu pourquoi on est tous tenus par cette série.
Effectivement, tu l'as dit, la série jouit d'un engouement assez inédit, mais qui a quand même prêté le flanc à la critique idéologique, puisque on se souvient que au tout début de sa diffusion, le New York Times avait balayé la série d'un revers de la main en disant que c'était de la boy fiction, donc de la fiction pour petits garçons. Et d'ailleurs, on n'oublie pas que la presse américaine a dit que les femmes ne pouvaient pas aimer cette série qui était, selon eux, trop violente et difficile à suivre. Merci. Alors qu'en 2013, en tout cas aux États-Unis, le magazine Wired a noté que 42% des spectateurs étaient en fait des spectatrices. Et je suis sûre que si ce sondage avait lieu maintenant, ce chiffre aurait certainement augmenté.
Oui, et puis d'où les femmes n'aiment pas la violence. Enfin, clairement, genre une série comme Killing Eve montre bien qu'on aime la violence.
Beaucoup de préjugés. Parmi les critiques de la série, on peut noter, même déplorer, l'héritage assez putassier qui est directement lié aux méthodes employées par la chaîne HBO, qui a donc diffusé Sex and the City, Girls, etc. En fait, la série donc Game of Thrones a beaucoup eu recours au procédé qu'on a appelé la sexposition, c'est-à-dire dénuder des corps féminins gratuitement, comme motif ornemental pour des scènes d'introduction. Donc ça a été un choix de mise en scène très décrié, qui signifie en gros « ne zappez pas ». Et beaucoup de spectateurs et spectatrices ont aussi boycotté la série en protestation face à la banalisation du viol comme procédé narratif et du male gaze, on l'a dit, donc le regard masculin, et ce qu'on a appelé le violence porn, donc une sorte de pornographie violente. On se souvient de la scène du viol de Sansa, dont l'horreur se lit en fait dans les yeux d'un homme qui regarde, et le viol de Cersei par son frère Jaime. Certaines personnes ont dit qu'au contraire c'était une dénonciation. Moi, j'en suis pas certaine vu la complaisance de la mise en scène. Et d'ailleurs, l'auteur George R. R. Martin et le producteur ont tous deux botté en touche sur ces questions-là. Alors qu'on peut, on peut quand même dire que la série n'est pas écrite au Moyen-Âge. On est en 2019 et on peut poser un regard conscientisé sur ces questions-là. Et de même, lorsque le personnage d'Arya est sexualisé, désolée pour le spoil, les auteurs de la série ont dit « À l'époque, les filles perdaient leur virginité bien plus tôt. » Donc il faudrait peut-être nous expliquer de quelle époque on parle.
Il y a aussi un énorme souci, par exemple, avec les questions de race. Les civilisations versus les peuples soumis. Donc, qui sont les peuples soumis et les esclaves? Eh bien, c'est des personnes qui ne sont pas blanches. Et qui sont présentées vraiment comme des sauvages. Là, pour le coup, rien que si on prend l'exemple des Dothraki. Donc, les Dothraki, c'est un peuple qui est cavalier, qui est nomade. Ils sont présentés réellement comme des sauvages. Et j'utilise ce terme à dessein. Ils parlent un langage que personne ne comprend. Ils poussent des ululements de guerre. Ils sont considérés comme des sanguinaires. Ils ont des corps massifs, donc il y a aussi un regard sur le corps non blanc qui est un peu spécial. On le voit aussi avec l'armée des eunuques qui est réduite en esclavage et qui eux aussi sont tous racisés et hyper taiseux. Non seulement ils ne parlent pas un langage qu'on comprend pas, mais ils ne parlent pas tout court en comparaison des gentils blancs briseurs de chaînes qui maîtrisent par exemple la diplomatie, la rébellion.
Ça, c'est un peu le mythe du white savior, donc du sauveur blanc à qui on n'a rien demandé.
C'est clair. Mais ça marche aussi, pour le coup, pour les sauvageons qui sont derrière le mur et qui, eux aussi, sont différents. Ils sont roux. Donc, c'est important, mine de rien, parce que c'est cette spécificité, elle entre en lien avec ce terme de sauvageon.
Et alors, du côté des questions LGBT, qu'est-ce qu'on peut relever?
On peut dire que cette série, elle est bien de son temps, puisque les personnes LGBT sont représentées. Est-ce qu'elles sont bien représentées, la question? Il y a des scènes d'amour qui ne sont pas hétéros. Par exemple, je pense à Oberyn Martell, donc le magnifique, qui est bi, qui ne s'en cache pas, qui prône une vie assez libre.
Take off your clothes. Which way do you like it?
Il y a aussi Laura Styrell, qui est gay, là, pour le coup.
You prefer me like this?
Mm-hmm.
If you want hairless, maybe you should find a little boy.
I want you.
Et il y a, ça c'est mon petit chouchou, il y a Yara Greyjoy. Yara Greyjoy, donc, qui est une soldate. Et pour le coup, il y a une scène qui est un peu gênante où on la voit dans un bordel avec une femme nue. Là aussi, est-ce que c'est intéressant de transposer une scène un peu de puissance hétéro à une scène entre une lesbienne et une prostituée? Je sais pas. Moi, ça m'a un petit peu gênée, en tout cas. Et puis, bon, il y a quand même la méga frustration, donc en dehors de ces représentations-là, la frustration de savoir Brienne, donc Brienne, grande chevalière, magnifique. On aimerait tellement la voir comme une butch de première classe, mais bon, elle est juste un chevalier. Les questions d'amour ou de quoi que ce soit, ça n'entre pas en ligne de compte.
Ça dépend dans quel épisode. Bon, je ne vais pas te spoiler.
Et alors, merde.
En tout cas, au niveau de la représentation genrée et sexuée, une étude a été menée sur la parité à l'écran par Roman Beaufort et Lucas Mélisson, qui sont deux experts démographes. Et selon eux, si on s'intéresse exclusivement aux 10 personnages les plus visibles à l'écran, la parité est presque au rendez-vous, puisque 4 sont des femmes. Mais au niveau de la répartition des rôles, 25% des femmes de la série sont des prostituées esclaves ou domestiques, alors que pour la gente masculine, ce ne sont que 2%. La manière dont le corps féminin est montré comme un objet en dit long aussi sur les rapports entre hommes et femmes, selon... Donc ces deux experts, puisque 26% des actrices apparaissent nues, et c'est le cas seulement pour 11% des acteurs, selon l'étude. Voilà, donc si on devait résumer, en tout cas pour moi, le rapport de la série aux personnages minorisés s'inscrit, je trouve, entre désinvolture et opportunisme, puisqu'après tout, Game of Thrones raconte la mise à mal d'un patriarcat ancestral, parfois avec succès. D'ailleurs, il y a une philosophe française qui défend vraiment la complexité de la série, c'est Sandra Logier. Elle a bien souligné dans ses écrits l'ambition démocratique de la série, notamment à travers son casting et ses personnages. Tu l'as dit, un nain, un personnage handicapé, une femme de 1m90. Et la série aide vraiment à les normaliser. Et je me permets de recommander également un article de Slate qui explique comment regarder Game of Thrones à l'heure de MeToo fournit en fait des clés pour comprendre les rapports de domination à travers la pop culture.
Bah du coup, la question, c'est qui va finir sur le trône ? Toi, t'as quelle idée déjà ?
Bah moi, j'aimerais bien que ce soit Karl, Daenerys, Marx, qui remettent vraiment à plat toutes les classes de la société. Et toi ?
Alors moi, pas du tout. Vraiment pas. Moi, j'aimerais bien une forme de collaboration, pas un triumvirate, mais limite, je vois bien Sansa avec sa sœur, en fait, avec Arya. Mm. Une sorte de pouvoir de femme du Nord. À mon avis, ce serait peut-être plus safe que Daenerys Marx, qui pourrait très bien vouloir après renverser absolument toute la situation.
Bon, quoi qu'il en soit, pour être raccord avec l'époque, on espère que c'est une femme qui va monter sur le trône.
S'il nous faut Jon Snow, là, révolution.
Et en tout cas, pour conclure, sachez que pour remplacer Game of Thrones, HBO, évidemment, n'est pas en reste, puisque la chaîne prévoit d'adapter les comics Asunda de Sebastian I. Jones. Donc, ce sont des comics d'afro-fantasy. Voilà, on attend de voir ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut, merci Anne-Laure.
Merci.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes, présentée par Clémentine Gallo
et Anne-Laure Pinault,
réalisée par Aurore Meilleur-Mailleux, à la prise de son Adrien Beccaria, montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard, avec l'aide de Cassandra de Carvalho.